Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission des Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heures de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons M. Moïse Moussangana. Il est journaliste professionnel, ancien directeur des publications du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV. Il est chercheur en matière électorale. Bonjour Moïse Moussangana.
Bonjour Guy Maté.
Maître Gentil Soukoulati, elle est présidente du conseil d'administration de la nouvelle société civile du Congo. Bonjour Maître Gentil Soukoulati.
Bonjour Guy Maté, je voudrais rectifier un tout petit peu de la nouvelle société civile congolaise.
Voilà. Merci beaucoup pour la rectification. Et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mangakak, journaliste spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Bonjour Josué Blaise Mangakak.
Bonjour Guy Maté et aux autres copanélistes. Et je transmets le même bonjour depuis Yaoundé, la ville de cette colline, à vos auditeurs très sympathiques et j'imagine très nombreux.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté autour de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Moïse Moussangana, journaliste professionnel. Il est ancien directeur des publications du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV. Il est chercheur en matière électorale. Madame Gentil Soukoulati, présidente du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise, et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mbangakak, journaliste spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Au menu de cette émission, l'Union pour la Nation Congolaise UNC de Vital Kamerhe a désigné Félix Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle de décembre 2023. Le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a acquitté mardi 22 août Fortuna Biselele, ancien conseiller privé du chef de l'État, et la haute cour militaire réqualifie les charges du député Edouard Mangachuchu. Enfin, processus électoral à l'image de celles de 2006, 2011 et 2018, les élections de 2023, sur fond des sabotages du processus électoral et des délégitimisations des gouvernants. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur le sommet des pays émergents dont les travaux se sont clôturés jeudi 24 août en Afrique du Sud. En effet, les BRICS, composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, renforceront la coopération en matière de sécurité alimentaire entre eux et au-delà. Ils ont également affirmé leur soutien indirect à la Russie en condamnant les sanctions contre ces pays. Ces résolutions ont été adoptées jeudi dernier à la fin du 15e sommet tenu à Johannesburg. Ils sont également revenus sur la guerre en Ukraine. Les groupes notent avec appréciation l'initiative africaine visant à régler les conflits ukrainiens. Et pour son extension, ils ont accepté l'adhésion de l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Éthiopie. La RDC a été représentée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, qui a pris part à ce sommet comme invité. Moïse Moussangana, quelle est votre lecture par rapport à ce sommet de BRICS qui s'est tenu en Afrique du Sud?
Bon, il faut dire que d'abord les BRICS veulent se positionner comme alternative, eu égard à l'ordre mondiale post-deuxième guerre mondiale, voudrais-je dire. Et c'est là dans le cadre d'un nouvel ordre mondial qui se veut multipolaire. Donc c'est une alternative un peu à l'Occident qui a dominé depuis tout ce temps l'ordre mondial. Donc voilà, c'est pour quand même, on constate qu'il y a un engouement pour adhérer au BRICS. Il y a 6 pays, et voilà. Est-ce que la RDC va adhérer aussi au BRICS prochainement? Je ne sais pas, mais pour le moment, on n'était qu'invités. Mais déjà, le fait qu'il y a déjà un pont entre la RDC et le Brésil dans le cadre du changement climatique, dans le cadre de la préservation des forêts tropicales, bon, je crois que c'est un chemin parcouru déjà peut-être au tiers pour pouvoir accéder. Mais de toute façon, bon, je crois que il faut quand même essayer, comme a dit un auteur européen dont j'ai perdu le nom, qu'il faut un équilibre du déséquilibre. Donc jusque-là, on constate qu'il y a un déséquilibre, dans le sens que l'Occident domine même les Nations Unies, on voit comment ils dominent au Conseil de sécurité, et comme ça, il faut quand même il faut essayer de changer l'ordre des choses. Donc je pense que le BRICS est en train de participer, ou va participer au fur et à mesure, à équilibrer les déséquilibres que nous constatons et que d'aucuns dénoncent. Voilà ce que je peux dire.
Merci Josué Blaise Mbangakak. Lors de ce 15e sommet des économies émergentes, on a senti ce besoin de beaucoup de pays d'adhérer à ces blocs. On sait que ce n'est pas une nouvelle expérience. Il y a eu à l'époque ce qu'on a appelé les non-alignements au sommet de Bandung en Indonésie en 1955, où s'étaient réunis la Chine, l'Indonésie, l'Inde, le Ghana, l'Égypte et tant d'autres pays. Un sommet qui avait suscité beaucoup d'espoir dans les pays du tiers-monde à l'époque. Mais on sait à quoi cette démarche avait abouti. Tous ces pays ont fini par se ranger derrière ces deux blocs de l'Est et de l'Ouest. C'est vrai que comparativement à Bandung, les pays du BRICS ont des PIB élevés. C'est des pays avec des économies prospères. Est-ce que cette force économique suffit-elle pour aider ces pays à se départir de l'influence du Nord comme ils le souhaitent?
En réalité, poser comme ça la question n'est pas exacte. Les BRICS créent un pôle de développement économique pour leur propre bonheur et ça coïncide que ce n'est pas une bataille politique-politicienne pour s'opposer à l'Occident. Et là, il vient de donner une leçon à tous ces haut-parleurs panafricanistes du dimanche qui parlent à longueur de journée de l'Afrique et de l'Afrique. Sans convergence des pôles économiques, on ne peut pas se mettre ensemble. Première leçon, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont des économies et des produits intérieurs bruts qui sont presque identiques. Et ils n'ont pas la même lecture des problèmes économiques. Ils ont donné là une leçon aux Africains pour la plupart, qui font plutôt des points de convergence d'angélisme de cœur. J'aime tel et je n'aime pas tel. J'aime l'Occident, je n'aime pas l'Occident. Et vous voyez que les BRICS ont mis des critères pour adhérer à leur groupe. Il faut avoir des économies compétitives et qui ont un tel niveau de compétition, sinon vous n'adhérez pas. Il y a eu dans un premier jet 23 pays, après on a frôlé 40. Combien sont entrés finalement? Alors, vous voyez donc que les critères d'accès ne sont pas exactement comme les Africains pensent. Venez tous, on se met ensemble, vous verrez que l'Afrique du Sud s'éloigne de plus en plus des questions comme le panafricanisme. Le Nigeria, ça les intéresse pas parce que les économies, on ne peut pas mélanger l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola, l'Éthiopie avec des pays aux économies qui sont à la recherche des identités et qui sont en lambeaux. Le Mali, le Burkina, la RCA, le Niger, tout ça, ça ne peut pas intéresser l'Afrique du Sud. Pourquoi ils se mettraient ensemble? Pourquoi les économies viennent plutôt vers le bas? Donc pour les Africains, ça devait être une leçon qu'à un moment donné, on ne se met pas pour le but de se mettre. Et vous verrez que les 5 pays du BRICS actuels n'ont pas la même lecture. C'est pour ça qu'ils refusent qu'il y ait des résolutions politiques-politiciennes dans leur rassemblement. Voyez-vous, chacun d'eux avait besoin d'un des pays qui soit compétitif. Ils ont réuni, après la quasi-totalité des grands producteurs du pétrole du Proche-Orient, l'Émirat, l'Arabie Saoudite, l'Iran. Et pour eux, je vous rappelle qu'ils ne considèrent pas l'Égypte comme un pays africain, mais c'est plutôt comme un pays du Proche-Orient. Donc voilà, ils ont compris que s'ils ont déjà aujourd'hui les 40% de la population mondiale et 23% des indices de développement au niveau du produit intérieur brut, avec ces pays producteurs de pétrole qui arrivent là, ça va faire encore un boom. Et vous savez que le Brésil tenait beaucoup à l'entrée de son voisin l'Argentine, qu'il a réussi à mettre. Et pour aller vers la conclusion, les cinq pays ont une lecture différente. Par exemple, le Brésil est celui qui milite le plus pour la création d'une monnaie rapide, du BRICS. La Russie veut qu'on intègre la politique politicienne à l'intérieur du BRICS, un peu la Chine, et telle n'est pas la question de l'Inde. L'Inde, par exemple, est beaucoup plus sur des questions à économie pure, un peu comme l'Afrique du Sud. C'est pour ça que, vous avez vu, on ne vient pas là-bas se mettre là à parler d'histoire du Niger, de ceci. Qu'est-ce que ça nous rapporte? C'est ça qui est à l'ordre du jour. Nous, Africains, on est plus dans les distractions que dans l'efficacité. Donc ce sommet devait servir de leçon aux Africains. Aujourd'hui, nous avons la zone de libre-échange que nous-mêmes, nous ne parvenons pas à mettre ensemble. La route transafricaine Mombasa-Lagos n'a jamais pu voir le jour. Le plan d'action de Lagos depuis 80 n'a pas pu voir le jour parce que nous sommes dans les incantations lyriques, dans les incantations du panafricanisme ostentatoire qui en réalité n'envoie à rien du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le panafricanisme existe? Prenez tous ces panafricanistes, demandez-leur c'est quoi le panafricanisme? Qu'est-ce qu'on en dit? L'unité des Noirs, les Noirs c'est quoi? C'est d'Amérique, c'est des Antilles, les Noirs c'est quoi? Donc, essayons d'être ceux qui regardent ce modèle-là, et vous verrez que chacun des pays a ramené dans son giron les pays qui lui sont favorables. Ne voyez pas l'Arabie Saoudite. Vous savez bien que l'Arabie Saoudite, c'est pratiquement un département américain. L'Égypte, l'armée américaine est partout là-bas. Donc, eux ne sont pas dans les batailles Occident, Afrique, tiers monde et tout. Ils sont dans des batailles économiques pures. L'Afrique du Sud, l'Afrique l'intéresse très peu. Parce que sur le plan économique, ça va le tirer vers le bas. L'Égypte est beaucoup plus proche. D'abord, la base et le siège de la Ligue arabe, c'est en Égypte et pas ailleurs. Donc, tirons les leçons, quittons le sentimentalisme et allons vers le pragmatisme.
Merci, Madame Gentil Lukulati. Cette nouvelle approche impulsée par les économies émergentes ne risque-t-elle pas de décevoir, ne risque-t-elle pas de se terminer comme celle des pays des non-alignés de 1955?
Merci beaucoup, Guy. Je suis en train de dire que si vraiment la prise de conscience est effective, je ne pense pas que ça serait une déception. Parce que nous devons quand même vouloir obtenir une évolution dans ce que nous sommes en train de faire. Donc tout à l'heure, là, il y a un de vos invités qui a dit qu'il ne faudrait pas que les Africains soient distraits à autre chose. Donc moi, je pense que ça ne sera pas une déception dès lors que il y a la prise de conscience sur ce que les Africains pensent faire pour que cela nous amène quand même à une bonne évolution et évaluation des choses. Voilà ce que je peux dire en quelques mots.
Merci. On prend une petite pause avec Aye Africa de Franklin Bukaka et on revient tout de suite après.
Pasusu oyo na bonaka
C'était Aye Africa de Franklin Bukaka, cet artiste musicien engagé qui est né le 10 octobre 1940 à Brazzaville et mort assassiné le 22 février 1972 dans la même ville. C'est un chanteur, guitariste et auteur-compositeur congolais, spécialiste de la rumba et du soukous. Paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine. Lors de son congrès tenu samedi 19 août à Kinshasa, l'Union pour la Nation Congolaise UNC de Vital Kamerhe a désigné Félix Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle de décembre 2023. Les membres de l'UNC justifient cette reconduction de Félix Tshisekedi par les soucis de parachever toutes les actions du programme commun conçu avec son partenaire UDPS dans le cadre de l'avènement de la plateforme CASH, CAP pour les changements. Il s'agit aussi, selon eux, de poursuivre la mutualisation des efforts pour l'émergence de la RDC dans le cadre de l'Union sacrée pour la nation. Cette décision vient ainsi écarter la disposition de la Convention de Nairobi de 2018 entre l'UNC et l'UDPS qui prévoyait qu'après 5 ans, une alternance des candidatures uniques à la présidence de la République. Josué Blaise Manaka, que vous êtes journaliste et spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie, vous avez souhaité nous parler de ces sujets par ces questionnements. 5 mois après leur entrée au gouvernement, quel bilan peut-on dresser de la gouvernance de Vital Kamerhe et de Jean-Pierre Bemba au moment où Vital Kamerhe, à travers son parti politique l'UNC, désigne Félix Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle de décembre 2023? Pourquoi vous abordez ces sujets par ces questionnements, Josué Blaise Manaka?
D'abord, je dirais par l'admiration que j'ai pour ces deux personnalités dans la scène politique congolaise, que ce soit Jean-Pierre Mbemba ou Vital Kamerhe, que je trouve quand même des qualités assez exceptionnelles. Et deuxièmement, c'est parce que je voulais que soit on attendait le 6e mois pour faire le check-up politique. Et à 5 mois exactement, sur ce même plateau, nous avions tenu un débat qui faisait du débat politique leur entrée au gouvernement. Et je disais à cette époque que leurs deux pôles, ils ne seront pas des ministres comme les autres ministres, compte tenu du poids politique et des appareils qu'ils ont et de la base que chacun contrôle. Donc je crois que le bilan qu'on peut en faire, hein, sans avoir un véritable thermomètre politique qui sort la température réelle, on a l'impression que du côté du vice-premier ministre Bemba, on a hors de la RDC très peu aujourd'hui des nouvelles qui annoncent les mauvaises nouvelles du côté de l'Ituri, du Kivu et de tout ce qui s'est passé à Goma. De moins en moins, on a des nouvelles plus un peu paisibles. Donc on peut dire que la chaîne de commandement est ténue. Je peux me tromper, je suis un humain. Mais j'attends des preuves matérielles sur les chiffres et des attaques précédentes et d'aujourd'hui. Je crois que Vital Kamerhe, depuis son arrivée comme vice-premier ministre en charge des questions de l'économie, a eu la chance aussi d'avoir à ses côtés quelqu'un qui connaît et maîtrise bien le président, qui a de très bons rapports, donc le ministre Kazadi. Et l'entente parfaite fait qu'aujourd'hui, on peut dire que le vice-premier ministre, M. Vital Kamerhe, fait un excellent travail. D'abord, il faut admettre que la proximité des deux entre le chef de l'État et lui, son passage au Niouf, lui ont donné une autre manière de regarder les choses. Donc, quand vous avez été soit sur un lit d'hôpital ou privé de liberté, vous relativisez un certain nombre de choses et vous ramenez tout pratiquement à l'humain, et ça vous sort de votre cerveau un certain nombre de fanfaronnades. Donc on peut dire que les deux, aujourd'hui, sont dans une logique, et l'analyse aujourd'hui en Afrique a démontré que plus vous vous éloignez du pôle du pouvoir, plus vous vous éloignez de la succession probable, parce que tous aujourd'hui, que vous l'expérience des autres pays africains que je ne vais pas citer pour ne choquer personne, la plupart de ceux qui accèdent au pouvoir plus tard, sont ceux qui ont été soit Premier ministre, soit Président de l'Assemblée, de toute façon autour du Président, que les deals se font pour que la succession se fasse dans la paix. C'est vrai, l'actualité ne nous donne toujours pas raison ce qui se passe au Niger. Parfois, le Président part sans partir et peut nommer son fils comme ministre de l'économie et du pétrole, et en se disant que tôt ou tard, je veux continuer à diriger les questions de pétrole au Niger avec la télécommande et que après, ça sera mon fils qui prendrait. Donc il y a trop de calculs en Afrique qu'il faut qu'on arrête et qui font que nos opinions publiques n'étant pas toujours outillées, sont toujours prêts à avaler toute cette pilule-là sans les digérer. Donc je crois qu'aujourd'hui, si on fait un bilan de ces deux poids lourds politiques, Jean-Pierre Mbemba et Vital Kamerhe, l'UNC a fait un choix politiquement qui s'est fait aujourd'hui dans beaucoup de pays africains. Et vous avez vu même au Cameroun, personnage d'une fournie qui a été un opposant historique et radical, à la fin de ses jours, s'était rapproché du président Biya et puis du pouvoir en se disant demain, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, l'expérience l'a montré, et le cas de la Côte d'Ivoire, plus vous vous éloignez du pouvoir, plus on voit aujourd'hui les rapports Guillaume Soro à la Alassane Ouattara.
Merci Moïse Moussangana, journaliste professionnel, ancien directeur de publication du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV. Vous êtes chercheur en matière électorale. Et la décision de l'UNC de désigner Félix Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle 2023 peut-elle être considérée comme le fruit d'une contrainte ou c'est plutôt le fruit d'un réalisme politique?
Non, il faut dire que l'UNC a joué la carte du réalisme politique. Et je crois que, au-delà de ce que vous avez énuméré comme raison qui aurait milité à cela, mais il faut dire que les meilleures raisons ont été données par le secrétaire général de l'UNC, M. Willy Kambalé, si je m'abuse, une radio concurrente. Il a dit ceci, en quelques mots, je ne sais pas reprendre textuellement ces mots, il a dit que le président Tshisekedi, en sa qualité de président de la République et chef de l'État, avait une longueur d'avance sur eux. Et bien sûr, il faut dire, comme notre ami camerounais venait de le dire, que le
Josué
fait que le Cameroun soit passé par un endroit qui n'est pas souhaitable a fait que sur le plan politique, Vital Kamerhe a perdu quand même un peu de sa superbe. Même dans l'opinion, Vital Kamerhe avait diminué sensiblement. On pouvait même le voir parce que j'étais du côté de Goma. Quand il est venu en tournée à Goma, il n'a pas connu un engouement comme par le passé. Et il a fallu même de très peu par sa démarche de triangulation pour qu'il soit rapproché de Kagame. Donc voilà, ça veut dire que le passage en prison de Kamerhe l'a fragilisé sur le plan politique et je crois que Kambalé avait raison de dire que Tshisekedi avait une longueur d'avance sur eux et que aussi, en plus, il a dit qu'il y a des actions qui sont menées sur les terrains qui militent pour que Tshisekedi rempile parce que en dehors de tout ce que le pays connaît, on a connu le Covid, ses ravages, la guerre en Ukraine et la guerre même en RDC avec le Rwanda, il y a quand même des réalisations qui sont faites. À Kinshasa, vous voyez ce que l'hôpital Mamayemo est en train de représenter. Vous voyez avec le PDL 145, donc le plan de développement de 145 territoires, dans de quoi reculés du pays sont en train d'être dotés d'infrastructures scolaires, d'infrastructures administratives et consorts. Donc il y a quand même, malgré la conjoncture économique difficile, il y a quand même des actions qui sont posées. Je crois que sur ce plan-là, l'UNC a joué la carte du réalisme. C'est la même chose aussi pour Bemba. Il faut dire que le passage de Bemba en prison à La Haye et sa tentative manquée de se présenter comme candidat autrefois, ça fait que le MLC était aussi dans une mauvaise passe. On n'a qu'à voir le résultat des législatives. En 2006, le MLC avait 64 députés. En 2011, il en a eu 24. Et en 2018, il en a eu 16. Donc, pas même de quoi pour avoir un groupe parlementaire. Donc, le MLC était vraiment en baisse. Il fallait vivifier les partis. Je crois que par Tshisekedi, ça a quand même donné un certain tonus au parti. Et il faut aussi ne pas oublier quelque chose.
Bemba a perdu quand même quelque chose sur le plan de leadership dans l'ancien Équateur, qui aujourd'hui est morcelé en cinq parties, et que hier, Bemba avait un leadership sur toute la province de l'ex-Équateur, mais aujourd'hui vous avez à la tête de ces cinq morceaux des Ouattélé qui ne se réclament pas de lui. Donc je crois que le MLC a joué aussi la carte du réalisme. Mais il ne faut pas aussi perdre de vue qu'ils étaient déjà engagés dans une même voie à travers l'Union Sacrée, qui a permis de déboulonner, comme le dit le président Tshisekedi, qui a permis de déboulonner le système Kabila. Tshisekedi ne l'a pas fait seul, il l'a fait avec le MLC, avec l'UNC, avec la FDC de Bahati et aussi bien d'autres partis politiques. Et que l'entrée au gouvernement de Kamere et de Bemba, aussi Moussa Namoussi, c'était quoi? C'était aussi une façon de recentrer l'action du gouvernement, de resserrer les rangs dans la perspective électorale. Donc je crois que ce choix, c'était un choix stratégique et tu sais, dit à tu bien joué en remplaçant le perspective comme tu aurais le dire.
Merci Madame Gentil Soukoulati. Si le président Félix Tshisekedi était réélu, s'il est réélu en décembre 2023, est-ce que l'UNC pourrait avoir assez de marge de manœuvre pour revenir encore sur le devant de la scène comme c'était en 2019?
Bien, merci beaucoup. Tout dépend aussi de la manière dont ils discutent, ils échangent, ils arrivent à se mettre d'accord parce que nous les avons vus ensemble. Donc à l'époque, ils n'ont pas été ensemble. À un moment donné, ils sont revenus et certains sont partis à gauche, les autres à droite. Mais au finish, aujourd'hui, nous les retrouvons ensemble. Ben, on peut toujours dire, vous savez, avec les accords politiques, hein, les choses se passent très autrement. Nous ne pouvons pas penser que pour nous, après la réélection du président de la République, cela pourra se passer d'une autre manière. Mais on peut toujours dire qu'ils vont revenir sur la scène politique parce que, ayant apporté aussi leur soutien au président de la République. Parce que lui, ayant aussi besoin de leur soutien, ça il faut reconnaître. Eux également qui sont en train de jouer aussi à leur stratégie de revenir, comme les amis l'ont dit, après une longue période pour Jean-Pierre Bemba d'être à La Haye, après une longue période pour Vital Kamerhe d'être incarcéré à la prison centrale de Makala. Et puis, quand ils reviennent dans ces conditions, nous savons tous que c'est par stratégie, mais aussi comme dans le camp du président de la République, qui veut avoir aussi leur soutien, comme aussi eux-mêmes ont besoin aussi du soutien du président de la République pour revenir en force sur la scène politique. Parce que comme Moussa Ngana vient de dire, nous avons vu Vital Kamerhe au sorti de la prison, nous le connaissons tous, nous avons quand même entendu certaines déclarations de la population au vu de son honneur sur la place politique. Parce que nous parlons plus de la politique qui nous intéresse par rapport à ces deux hommes. Donc moi, je pense que des uns comme l'autre, comme le président de la République, tous ont besoin d'avoir le soutien et puis faire le parcours ensemble, parce que nous connaissons tous comment les accords politiques se font et se refondent. Donc, quant à moi, donc je dis ça comme ça. Nous ne serons pas surpris de ce que nous allons vivre, parce que pour preuve, ce n'est pas une surprise, ni pour moi, ni pour les autres, celles qui les ont dit. Le fait de le voir ensemble jouer dans le même jeu politique, donc ce n'est pas une surprise. Nous disons que bon, c'est bien, c'est encourageant qu'ils prennent cette décision-là, mais tous ont besoin d'aboutir à une seule solution ou à une seule victoire, qui est celle du président de la République. On vit aussi de ce qui a été fait sur le terrain, par la construction des infrastructures que nous avons vues, courageux également. Donc tout ceci nous amène à croire que bon, nous avons besoin que nos classes politiques changent et que les choses aillent plus mieux, surtout pour la population congolaise. Voilà.
Merci, chers auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, Reddy Amissi fête ses 40 ans de carrière musicale. Nous allons donc écouter une de ses compositions intitulée Yves Makamu. Dans cette chanson, Reddy Amissi était en featuring avec Dindo Yogo et revient juste après.
yo mawa kive makam ikale lo yo na kenda po pasiele kiawa nani ako yambelanga kaimbo toyo na meteni na mazongi na keimbo pasi mwale bolingo esu kibo ye na koi na koi na koi na koi ukinde na kanga na lupa ya bolingo na koi na koi na koi na na yuzetika na pesa kia mote mananga inyo koyo mona kina ilo kola yumaka yo lelo na madone kazaka maka mutikali kole la se kole la ibe na kere nikendo na dikendo
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire sur les sommets des pays émergents dont les travaux se sont clôturés jeudi 24 août en Afrique du Sud. Nous avons également analysé la décision de l'UNC de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2023. Participe à cette émission Moïse de Moussangana, il est journaliste professionnel, ancien directeur de publication du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV, il est chercheur en matière électorale. Maître Gentil Soukoulati est le président du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise. Et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mbangaka, qui est le journaliste spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, a acquitté mardi 22 août dans la soirée Fortuna Biselele, ancien conseiller privé du chef de l'État, renvoyé des fins de poursuites faute de preuves étayant les accusations du ministère public. Biselele recouvre sa liberté définitive et se voit ainsi innocenté par la justice. Entre-temps, dans une autre affaire, cette fois-ci, la haute cour militaire réqualifie les charges du député Edouard Mongachuchu. Les charges passent de l'infraction d'espionnage à celle de trahison. Maître Gentil Soukoulati, vous avez opté pour ce sujet, on peut savoir pourquoi.
Bien, d'une part, pour essayer quand même d'apporter une lumière à la population par rapport à la compréhension des choses, parce que lorsque nos juridictions ou nos juges rendent des décisions, parfois sans avoir été partie dans ce procès, sans avoir pris des faits de manière aussi près que possible pour connaître exactement ce qui s'est passé. Et lorsqu'il y a une décision, bon, certaines personnes ou le commun des mortels fait un commentaire à sa manière. Fait un commentaire à sa manière, peut-être pas de manière aussi objective. Alors c'est comme ça que j'avais pensé que notre réflexion pourra aider la population ou les Congolais à comprendre dans une certaine mesure que dans des décisions que les juges rendent, parfois, il y a le comportement des juges qui sont vus comme des comportements mettant à l'aise la population, mais qui sont autorisés par nos lois.
Justement, Maître Gentil Soukoulati, des personnes qui sont interpellées et tout de suite ont formé une panoplie des charges, et tout cela avant tout jugement. Et après, c'est la même justice qui soit acquitte, c'est le cas de Fortuna Biselele, soit c'est une réqualification des charges, le cas de Mwangachuchu. Maître Gentini Soukoulati, vous êtes praticienne des droits. Peut-on parler de votre face de la justice, ou c'est plutôt ça la logique qui fonde le fonctionnement de la justice en général?
Bien, je dirais que c'est pas, on ne peut pas parler de votre face, mais plutôt... On peut parler du comportement qui peut être normal, parce que par rapport au dossier du conseiller Biselele, qui a été acquitté, dans la motivation du juge, ce dernier dit que acquittement pour faute de preuves. Vous savez, lorsqu'on saisit la justice contre une personne pour des charges bien précises, il faut en apporter à preuve. C'est la preuve qui permet à ce que lorsque vous êtes en justice avec la personne, que la personne soit condamnée conformément aux faits commis. C'est pourquoi il est important. Ça ne suffit pas d'apporter devant le magistrat, par exemple, du parquet, on les lui amène, il instruit le dossier, il peut estimer que, à son niveau, le dossier peut être envoyé en fixation. Mais lorsque l'on arrive devant les juges, le juge constate que les charges qui lui sont apportées ne sont pas prouvées. Au vu de ce comportement-là, le juge ne peut pas faire autre chose que d'acquitter la personne. Je le dis en tant que praticienne de droit de tous les jours. Mais aussi, n'ayant pas suivi l'affaire de trop près comme un conseil qui était dans le dossier, pour exactement dire qu'il y a eu des charges que monsieur le conseiller ne soit pas condamné. Donc vous comprendrez que lorsque le juge, moi par exemple praticienne de droit, lorsque le juge dit qu'il a acquitté faute d'éléments de preuve, bon, je le croirai. Je le croirai parce que je me dis, s'il était en face de preuve, le juge aurait condamné. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'on ne lui a pas apporté des preuves au vu des éléments, au vu des infractions mises à la charge de la personne. Donc moi, je réfléchis comme ça, je le dis comme ça, et je me dis, si on allait en justice, allons-y bien avec des éléments de preuve pour permettre à la justice de faire son travail. Et non pas aller comme si nous allions en tourisme. Ça veut dire nous battons pour aller en justice, mais avec l'idée que, bon, la justice pourra chercher elle-même les preuves. Non, la justice ne cherche pas les preuves. C'est la personne qui saisit la justice qui apporte les preuves, pouvant permettre à ce que la personne soit condamnée au vu de son comportement. Parce que la sanction que la personne bénéficie a pour rôle de pouvoir corriger le comportement de la personne dans la société.
Merci, merci Moïse de Moussangana. La justice dans notre pays nous a habitués à une certaine manière de faire les choses. Des personnes sur lesquelles pèsent des soupçons sont interpellées, et souvent avec une brutalité qui choque. Des accusations sont formulées et même médiatisées avant tout éventuel procès. On a l'impression que la personne est déjà condamnée avant d'être jugée. Après, on se rend compte que le dossier est vide et par conséquent, on libère l'accusé. Moïse Moussangana, quelle image cette manière de faire donne à notre justice?
Je crois que, avant de revenir à votre question, je crois que le président de la République était triste dans l'interview qu'il avait accordée à son porte-parole, Madame Tina Salama. Et je crois qu'il avait manifesté certaines récriminations à l'endroit de la justice et qu'il n'est pas content vraiment du travail abattu par la justice tout au long de son mandat. C'est presque son tendon d'Achille. Je ne veux pas dire que la justice est aux ordres, mais il faut dire que c'est la façon de faire de cette justice-là qui parfois laisse à désirer. Parce que pourquoi? Parce que le personnel judiciaire, si je peux parler ainsi, parlant de magistrats, que ce soit du parquet ou au niveau du tribunal, on dirait qu'ils sont habités par certaines valeurs qui ne sont pas de valeurs en réalité. Et que ce corps-là est gangréné, notamment par la corruption, qui fait que les choses ne sont pas vues de la manière dont elles devaient être vues ou regardées. Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de situations où il y a le flottement. Aujourd'hui, on a un problème avec le cas Matata, où il y a eu une interprétation erronée de l'article 164 de la Constitution sur la responsabilité de l'ancien président de la République ou du Premier ministre, les responsabilités pénales, voulais-je dire. Donc, alors que la loi est claire, elle est bien édictée, même un littéraire, il ne fallait pas être juriste pour comprendre l'intelligence de la loi qui dit que la Cour constitutionnelle et juge pénal du président de la République et du Premier ministre, patati patata, même pour des infractions commises à l'occasion de leur fonction. Et voilà, curieusement, on nous sort une monstruosité en disant que non, le Premier ministre n'est pas justiciable devant la Cour constitutionnelle. Donc voilà, il y a un peu une certaine légèreté, un certain gangstérisme, je pèse mes mots, qui caractérise le personnel judiciaire congolais. Il y a carrément même des kamikazes qui se disent, mais écoute, je peux avoir dans une affaire 2 ou 3 millions de dollars que je ne pourrai jamais gagner durant toute ma carrière. Écoute, il s'en fout, il y va. Vous voyez que même, il y a même des gens qui ont bénéficié de la grâce présidentielle alors qu'ils n'étaient pas éligibles. Donc, voilà un peu, c'est ça qui fait mal un peu dans cette justice. Donc, il faut dire que c'est un chantier sur lequel il faut revenir pour essayer de réorganiser les choses, de réorienter les choses en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pour répondre à ta question, je voudrais dire que cette façon de faire, un peu comme l'a dit Maître Gentil, à un moment donné, ça devient comme un règlement de compte. C'est-à-dire que la justice possède des règlements de compte. C'est-à-dire qu'on ne ficelle pas les dossiers comme il se doit. Et voilà, on en arrive parfois à réqualifier les choses et parfois à trouver qu'il n'y a pas de preuves et qu'on sort. Ce qui ne milite pas pour la montée en puissance de cette justice.
Merci. Josué Blaise de Mangakak, que répondez-vous à ceux qui attribuent cette attitude de cette justice au fait que la justice, souvent dans les pays africains, n'est pas indépendante et elle est inféodée aux politiques?
Disons qu'avant de répondre, je veux faire illustrer mon propos par deux exemples de deux pays africains. Vous savez, lorsque le président Ali Bongo est arrivé au pouvoir au Gabon, on a, dans son entourage, rapidement limogé son directeur de cabinet, M. Ouima, qui est aujourd'hui directeur général de la BGFI. Il connaissait le président depuis qu'ils étaient à l'office de port du Gabon. Il était tellement fidèle et collé au président que lorsque vous aurez terminé les deux exemples, vous comprendrez pourquoi j'ai pris le ticket d'entrée par là. Généralement, l'entourage du président, c'est des paniers à crabe. Je prends le deuxième exemple et je vous parlerai d'un ami, là, peut-être, ça peut être objectif ou subjectif, M. Karim Mekachwa, qui a été conseiller et très ministre des Affaires étrangères, très influent en RCA, en sait quelque chose. C'est-à-dire que dès que vous êtes la bouche et l'oreille du président, commencez à vous méfier parce que l'entourage des chefs d'État en Afrique, dans le monde, je termine des livres là des paysans, pas seulement des présidents africains, l'entourage des chefs d'État, c'est des paniers à crabes. Donc, des histoires sont généralement ficelées. Pour le cas d'Ouima, pour que j'illustre bien, à peine Bongo avait fait une semaine, la presse internationale et nationale avait déjà publié des scandales qui sont partis de la Banque centrale, la BEAC, où il a été éclaboussé et tout de suite, il fallait démissionner. Après, justement, étant un homme puissant auprès du président, lui a retrouvé une carte de reclassement à la banque. Karim Mekachwa n'a pas eu la même chance. Il se retrouve aujourd'hui en exil, coincé en Europe, dans un des pays là-bas. Alors, je m'amusais à lui dire que, justement, qu'est-ce que tu as pu faire pour que nous, tes amis, on puisse un jour te défendre? Il m'a dit, c'est tout simplement les affaires lorsque vous êtes autour du président et qu'on commence à penser que tôt ou tard demain, vous avez une figure qui peut être à jouer un rôle central. Et il a été président de l'Assemblée nationale, il a un carnet d'adresse, il a un budget un peu respectable. Les gens vous collent toutes sortes d'affaires et lui, on est même allé jusqu'à parler d'un coup de force vis-à-vis du président. Donc forcément, pour le cas du conseiller privé du chef de l'État congolais, je crois que quand cette affaire est arrivée, nous avons eu à faire une émission là. Aujourd'hui, que le juge se rétracte et trouve qu'il doit retrouver sa liberté faute de preuves, je pense qu'il faut qu'on ait un peu plus de sûreté dans les entourages de nos chefs d'État pour que ça ne ressemble plus à cette course à qui doit être le plus aimé, qui doit être l'homme du président, qui doit être la bouche et l'oreille du président. C'est cet ensemble d'aéropages, d'éléments qui amènent les gens à se mettre des peaux de banane et avec des facilités des gens dans des médias qui sont des journalistes, mais des journalistes discutables, tout simplement pour après une enveloppe, sont capables de balancer n'importe quoi et n'importe qui. Et voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, je crois que qu'est-ce qui a le plus honte? Je me pose la question, je ne sais pas si vous avez la réponse, quand on trouve que quelqu'un réqualifie les faits et qui se retrouve hors d'état des dangers, je crois qu'il faudrait qu'avant qu'on s'amuse avec la dignité et la liberté de personnalité, il faut remuer sa langue plusieurs fois.
Merci, on prend une petite pause avec « Selon que vous serez » de Michel Sardou et on revient juste après.
Et ce que la loi n'atteint pas, on a devant soi la justice et l'apparence, la justice, la nuance est indéfinissable, ce qui est pris ne se rend pas. Selon que vous serez puissant ou misérable, etc., etc. Il y a la rumeur provinciale qui prend l'allure phénoménale d'un drame humain considérable multiplié par les médias. Lorsque l'attaque et la défense se risquent au jeu de l'éloquence, il faut des hommes irréprochables ou dans le doute on s'abstiendra. Selon que vous serez puissants,
c'était selon que vous seriez de Michel Sardou à travers cette composition sortie en 2012. Michel Sardou fustige les abus de la justice. Michel Sardou est un chanteur et comédien français né le 26 janvier 1947 à Paris. Je rappelle que nous avons dans cette émission Moïse Moussangana, journaliste professionnel, ancien directeur de publication du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV, il est chercheur en matière électorale. Maître Gentil Soukoulati, il est président du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise. En ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mbangaka, qui est journaliste spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. La Commission électorale nationale indépendante CENI a prolongé de 5 jours la période de dépôt et de traitement des dossiers de candidature à la députation provinciale à l'élection des conseillers communaux, soit du 23 au 27 août 2023. La centrale électorale l'a fait savoir dans un communiqué publié mardi 22 août. Le but étant, selon la CENI, de garantir l'inclusivité du processus et l'équité des traitements entre les compétiteurs. Moïse Moussangana, vous avez proposé ce sujet en les formulant ainsi, à l'image de celles de 2006, 2011 et 2018, les élections de 2023 sur fond des sabotages du processus électoral et des délégitimisations des gouvernants. On vous écoute.
Oui, d'abord, il faut dire que vous avez parlé de la prolongation du délai de dépôt des listes. Je crois qu'on peut encore donner un autre délai supplémentaire, même un mois. Il y aura toujours des partis qui ne sont pas prêts. Je vous étonnerai, Guy Maté, en vous apprenant que hier, j'ai contacté les responsables des partis politiques qui ignoraient qu'ils devaient déposer les listes des députés, des candidats députés provinciaux concomitamment avec ceux des candidats conseillers communaux. Donc, vous voyez un peu cela pour revenir à ce que le feu professeur Biyoya disait, que nos partis politiques ne sont pas constitués pour accomplir des idéaux propres à toute formation politique. Est-ce que vous avez vu, pendant tout ce temps, même il y a une année, un parti politique, même l'UDPS, qui est au pouvoir, tenir un congrès au sens classique du mot? Ce sont des congrès à la hâte qui sont tenus, des congrès expéditifs, souvent pour désigner les candidats présidents de la République, alors que si des congrès avaient été tenus comme il se doit, donc toutes ces questions des listes des candidats aux différents échelons seraient traitées et on en aurait donné le principe directeur et on arriverait à l'échéance sans problème. Au-delà de ce paradoxe, je voudrais dire que les processus électoraux se succèdent à RDC, mais malheureusement, se ressemblent. Ils connaissent toujours le même tard. C'est quoi ces tards? C'est la désignation des membres de la CENI, c'est la contestation du cadre juridique, c'est la contestation du fichier électoral, avec comme corollaire l'audit externe du fichier. Il y a même la mystification même du fichier électoral. C'est le problème de financement des élections et on va voir quand il y aura aussi des problèmes de contentieux électoraux qui vont se poser un peu plus tard. Donc, c'est tout le monde, commencer par les religieux, si je dois parler par exemple de la désignation des membres de la CENI, c'est tout le monde parmi les religieux, principalement l'église catholique et l'église protestante qui aiment toujours prendre le dessus. Mais malheureusement, que ce soit en 2006 jusqu'à aujourd'hui, l'église catholique n'est jamais parvenue à jouer son tour parce que toujours court-circuitée par les 6 autres confessions religieuses qu'il a toujours minimisées, avec bien sûr l'appui du pouvoir, parce que vous savez qu'il y a toujours une lutte ici pour pouvoir contrôler la CENI. Et pourquoi il y a tout cela? C'est parce que les forces politiques et sociales impliquées dans les élections au Congo n'ont jamais évalué les processus électoraux à la fin des élections. Donc, c'est ainsi que les mêmes tares se reproduisent. Merci. 2006 jusqu'à aujourd'hui, on a les mêmes tares. Donc, les gens ne se donnent pas la peine d'évaluer les processus pour dégager les forces, les capitaliser, les consolider et essayer de minimiser les faiblesses.
Merci.
Donc voilà un peu comment je vois la chose.
Merci Maître Gentil Soukoulati. Les processus électoraux en RDC qui se ressemblent, comme l'a dit Moïse de Moussangana, vous attribuez cela à quoi? Il a évoqué le fait qu'on n'évalue pas les processus précédents. Est-ce que c'est l'unique facteur ou il y a d'autres facteurs qui peuvent être à la base de ça? Madame Gentil Sokoulassi, apparemment elle n'est pas là. Jésus Blaise Manaka, que pour vous, on peut attribuer le fait que les processus électoraux n'évoluent pas, les années s'écoulent, mais ces mêmes processus qui se succèdent se ressemblent. Ça peut être lié à quoi? Est-ce que c'est du fait qu'on n'évalue pas les processus précédents ou il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer cela?
Disons que, hormis ce qui a été dit préalablement, et donc j'en fais mienne, il y a deux ou trois facteurs qui reviennent assez régulièrement. D'abord, de part et d'autre, le pouvoir comme opposition, personne n'est dans des prédispositions d'accepter le jeu démocratique. Je prends encore un exemple pour illustrer. Le Gabon n'a pas encore fait ses élections. Mais, dans la semaine, on a déjà trouvé des éléments pour dire que le candidat Alexandre Barrot-Chambrier et le candidat désigné ont eu un entretien téléphonique pour déstabiliser le pays. Franchement, sans avoir des preuves, je trouve ça un peu comme un cheveu dans la soupe. En attendant, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme imitateur et tout, vraiment, il faut pouvoir avoir des preuves vraiment traçables, matérielles, et il faut qu'on dépasse ça. C'est quand on écoute ça de l'étranger, on tombe dans les infantilisation des politiques en Afrique, dont le pouvoir de nos différents pays ne sont pas assez déjà prêts à accepter les jeux démocratiques. Dans l'opposition, qui généralement aussi est constituée des anciens cadres du parti unique, qui se retrouvent dans la contestation et non dans l'opposition, se trouvent en se disant notre tour est arrivé. On passe plus le temps à rêver, à être au sommet de l'État comme président, qui a fait une mobilisation sur la durée, parce que le mandat, dans 4 ou 5 mois, la RDC va faire ses élections. Ceux qui vont là, maintenant, ne pas passer, devraient prendre du temps le lendemain à commencer à faire des sillons, à cultiver, à mettre des comités de soutien, à élever, à éduquer les cadres politiques et à faire que le rapport de force les soit favorable dans le prochain mandat, pour qu'au moment où on veut faire, parce que le vrai problème que les gens ignorent, on ne triche les élections que parce que la mobilisation des masses n'est pas au pic. Si le pouvoir sait que si on frôle l'élection, le pays va voler en éclats, je vous assure que, un, on prend des dispositions, et deux, on va trouver des... C'est vrai, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. On va trouver des poursuites, des calvities des opposants en les traitant de vouloir faire des putschs, de tout ce qu'on fait, renverser le pouvoir, tout ce qui infantilise encore l'Afrique, au point qu'aujourd'hui, pour terminer, beaucoup d'Africains dans les pays francophones, avec le populisme qui est partout, sont convaincus qu'on ne peut plus gagner une élection en Afrique francophone avec le bulletin de vote, même en Afrique anglophone, d'ailleurs en Afrique tout court. C'est pour ça que les gens supportent ce coup d'état stupide en pensant que le bulletin de vote n'est plus la seule issue pour arriver au pouvoir. Mais on est tous frappés par une cécité de telle manière que personne ne se dit que mais dans les différents pays où il y a un coup d'état depuis un mois, deux ans, qu'est-ce qui a changé dans les conditions de vie des populations? Qu'est-ce qui a véritablement changé? Alors, on a perdu en liberté, on a perdu en démocratie, il y a des gens qui ont fait de la politique leur carrière et ne seront plus jamais des politiciens professionnels, parce qu'on a eu des casques et des kakis qui se sont installés. Ils ont mis un premier ministre ici et là, qui est civil, je ne sais pas s'il est toujours civilisé, et les populations qui pensent que c'est là l'heure du changement croient ça. Donc je crois qu'il faudrait que les Africains, pour leur large majorité, essaye d'éviter de faire la politique plus avec le cœur, mais avec la tête.
Merci, on finit par là, on finit cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à M. Moïse Moussangana, à Mme Gentil Sokoulassi, à M. Josué Blaise Mangakak. Merci aussi à Willem Lungamba qui était la technique avec la participation d'Hervé Voka et d'Edep Sevita, sous la supervision d'Alex Essomé, Martin Sevoujango et d'Étienne Rougerie. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Jardin abandonné de Defao Matumona, chanson sortie en 1989 dans l'orchestre Shockstar. Et on se retrouve le samedi prochain.
Thank you.